Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. On va parler de plein de choses ce matin. Bien sûr, on va revenir sur l'effroyable décès dans des circonstances extrêmement dramatiques de la mère de l'ex-chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe. Sa maman serait morte donc d'hypothermie dimanche matin. Évidemment, il y aura une enquête du coroner. Vous avez entendu ça dans nos nouvelles pour essayer de faire la lumière là-dessus. Il y a beaucoup de questions qui demeurent ce matin. Et que ce soit la mère d'un politicien ou votre mère à vous, je pense que tout le monde peut se mettre à la place de ce que vit la famille, surtout qu'en ce moment, il y a une espèce de mauvais timing, puisqu'on se souvient d'une horrible tragédie aussi, qui est, vous en souvenez, parce que dimanche, à l'Île Verte, on a commémoré une autre tragédie, c'est le fait que 32 personnes soient mortes dans l'incendie de la résidence du Havre. C'était en janvier 2014, le 23 janvier, donc en théorie, ça fera 5 ans demain. Ça a ravivé des plaies à peine fermées chez beaucoup de gens. On aura l'occasion de parler à quelqu'un d'ailleurs tout à l'heure qui m'a écrit, qui va témoigner de ça et qui fait véritablement le lien entre ce qui s'est passé avec la mère de Gilles Duceppe et une autre tragédie aussi qui a eu lieu à Québec début janvier. On s'en est pas souvenu forcément, là, mais il y a un monsieur de 69 ans qui a été retrouvé mort en plein froid polaire devant une résidence pour personnes âgées à Sainte-Foy. C'était en début d'année, ça. Fait que c'est des cas comme ça, je vous rappelle tout ça, parce que des cas de gens âgés qu'on pense en sécurité, mais qui, dans le fond, ne le sont pas, il y en a plus souvent qu'on pense au Québec. Alors, on va parler de ça, puis je vais vous poser la question. Vous avez été très nombreux à réagir, à m'envoyer des mots là, depuis 24 heures, puis à me dire « faut que tu parles de ça, puis faut absolument faire quelque chose ». Mon collègue Paul Arcand vient de vous poser un peu aussi la question là-dessus. Est-ce que vous avez des solutions pour améliorer la sécurité dans les résidences? Mais moi, la question que je vous pose, est-ce que vous vous inquiétez? Surtout, est-ce que c'est la question qu'il faut qu'on se pose tous. Est-ce que nos aînés sont véritablement, vraiment en sécurité dans les résidences? Puis là, on parlait la semaine passée de l'Éden, là. Et là, on se disait, ben, c'est une résidence où le monde n'est pas payé, où il n'y a pas de formation, il n'y a pas de ressources. Fait que, vous vous souvenez de l'histoire de la dame ébouillantée? On avait parlé à son fils. Et là, c'est une résidence de luxe. Ça le dit, luxe, dans le mot, dans le nom de la résidence. Alors, il y a des questions à poser. Je pense que c'est pas juste chez les résidences de moins bonne qualité qu'il faut s'inquiéter. Je pense que c'est un constat général. Nos aînés sont peut-être pas assez en sécurité. Puis il faut peut-être s'en occuper plus. Il y a ça aussi. Yves Desjardins est président directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés. Bonjour, M. Desjardins.
Bonjour.
Pierre Blain, président directeur général de Les Usagers de la santé du Québec. Il connaît bien ce dossier-là puisqu'il a été au fait de bien des choses qui se passaient dans les CHSLD. Merci, Pierre Blain, d'être là.
Merci.
Monsieur Desjardins, vous êtes en charge du Regroupement québécois des résidences pour aînés. Quand vous voyez ça, êtes-vous interpellé?
Absolument, à chaque
événement. Vous dites-vous, on en manque des bouts puis il faudrait qu'on fasse quelque chose?
Non, mais j'aimerais, tout d'abord, dans votre introduction, vous avez cité deux cas, et on fait souvent, malheureusement, des amalgames, là, mais le cas de Québec, en début janvier, est un suicide, et l'Éden à Laval est un CHSLD, pas une résidence privée. Alors, si on place les choses en perspective, là, puis je veux pas diminuer le cas, et surtout pas... la tragédie d'hier, là, écoutez, ça nous a secoué tout le monde. Mais il reste que faut faire attention aussi comment on place les choses. Parce que là, on met tout dans le même panier, alors que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne.
Mmh. Ben, l'enquête du coroner sur le monsieur de Québec n'est pas terminée, là. C'est sûr qu'on suppose qu'il s'est... Il a été retrouvé. Apparemment, il est tombé de son balcon. Je ne sais pas s'il s'est jeté de son balcon. Mais je ne veux pas mettre toute la lumière là-dessus, mais vous avez raison. C'est peut-être quelque chose. Mais en même temps, il a été retrouvé dehors, gelé, pareil, au pied de sa résidence.
Oui.
Donc, c'est pas forcément un amalgame, là. Je pense que pour moi, je trouve que ça peut s'apparenter à quelque chose de connexe, là.
Ben, c'est pas mon avis, mais...
Ben, c'est correct, vous avez le droit. Oui, 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 moi, oui. Je pense qu'il
faudra
se fier sur le coroner, non?
Non,
c'est
ben,
le coroner qui va
dire... Ben oui, mais je connais les circonstances.
C'est
une
possible,
résidence
c'est...
qui est membre de chez nous.
Oui.
Et pour enjamber le balcon, il a fallu vraiment qu'il s'élève, là.
T'sais, donc, pas, vous dites, vous, pas, ça n'a rien à voir. C'est donc, le code...
On le sait, oui.
Donc, c'est un suicide. Parfait. Mettons qu'on met ça de côté.
Oui.
Je ne veux pas faire dérailler notre discussion. Comprends juste le cas de la mère de Gilles Duceppe, Hélène Rollet-Hott. Comment vous qualifiez ça?
Ben là, il y a une enquête qui est en cours. On va bien sûr attendre des conclusions. À première vue, écoutez, on était complètement atterri hier. C'est une résidence qui n'est pas membre de notre regroupement québécois des résidences pour aînés, mais tout de même, c'est une résidence qui est connue. Il y a 660 personnes qui habitent cette résidence-là. Il faut savoir également que les résidences sont en catégorie. On est ici dans une résidence pour gens très autonomes. C'est pratiquement des condos dans un même immeuble avec service. Donc, les gens sont libres. On ne connaît pas nécessairement les allées et venues. Il n'y a pas de contrôle là, sur les 660 résidents. Là.
Vous alliez dire sont libres de sortir quand ils veulent. Ce serait le fun qu'ils puissent rentrer, par exemple.
Bien sûr. Mais on ne connaît pas les allées et venues de chacun des résidents. Et c'est là aussi qu'il y a des catégories de résidences. Ouais. Et lorsqu'on est avec des gens en perte cognitive ou des gens en perte d'autonomie, on a des petites résidences, ouais. On a des grandes résidences. Et la ligne est mince entre la liberté que les aînés souhaitent avoir, parce que c'est un domicile, et la surveillance qu'on doit exercer. Là.
Tout à fait. Absolument. J'entendais quelqu'un justement plus tôt ce matin dans l'émission de Paul Arcand qui disait que... dans sa résidence ou dans un endroit qu'il avait déjà eu l'occasion de fréquenter, il y avait des bracelets. Les gens avaient des bracelets, puis on savait quand ils rentraient, quand ils sortaient. Dans le cas de la mère de Gilles Duceppe, ce qu'on en sait, que c'était une dame autonome. J'ai eu l'occasion de parler à Gilles plus tôt ce matin, là, puis une conversation plutôt privée, mais quand même, il disait que sa maman était, elle lisait un livre par semaine, puis elle n'était pas du tout en perte d'autonomie. Là. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'elle aurait aimé ça avoir quelque chose au poignet? Peut-être pas sûr non plus, là. Vous avez raison de dire jusqu'où on veut que nos aînés soient libres ou pas de leurs gestes. C'est pas évident, Pierre Blain, là-dessus.
Non, c'est vrai, c'est pas évident. Et moi, j'ai dit hier à la ministre Blais, on n'est pas là pour blâmer, mais on est là pour corriger et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Okay, et je pense que c'est ça notre discussion qu'on doit avoir aujourd'hui. Dans ce cas-ci, entre autres, on parle dans les résidences, il y a des certifications et il y a un article 21 qui dit qu'on doit avoir un plan d'évacuation, un plan d'incendie d'Alca. Alors, c'est juste ça, c'est-à-dire d'Alca de madame, et entre autres, ce plan-là, peu importe que ce soit de catégorie 1, 2, 3 ou 4, parce qu'il y en a 4 catégories jusqu'où les gens ne sont pas autonomes, dans ce cas-ci, c'est des personnes autonomes, mais même là, on doit avoir justement l'état de santé de la personne et si elle a des handicaps. Donc, dans ce cas-ci, il aurait fallu qu'on sache qu'il y avait peut-être quelque chose à faire dans ce cas-là.
Mais surtout que même autonome, 93 ans, ça se peut que tu aies de la misère à ouvrir la porte. Là.
Oui.
Même si tu as accès, là, ça se peut que la porte soit trop lourde pour toi puis que on n'a pas besoin d'avoir 93... C'est bête, là. Moi, j'ai une tendinite en ce moment. J'ai de la misère à ouvrir des portes. Là. C'est bête de même. Là. Ça se peut que tu aies un peu de misère et surtout après un certain âge, avec certains gestes, là, même autonomes. Là.
Absolument.
Ça ne veut pas dire que tu peux pas... Tu peux te faire ta bouffe, te faire ton café, faire ton lit, bouger et tout, mais... Les grosses portes l'hiver avec le froid, il y a bien des façons aussi de considérer ça. Là.
Regardez, il y a eu un autre cas il y a une semaine sur la rue Papineau, qui était, je pense, une résidence privée où il y a eu une évacuation, puis tout s'est fait dans l'ordre sans aucun problème. Bien sûr, c'était des gens qui avaient peut-être plus de handicap que dans une résidence comme celle-là, qui est une résidence de luxe. Et en passant, ça prouve une chose, c'est qu'on n'est pas plus en sécurité dans ce qu'on appelle luxe que dans une résidence plus modeste.
Là-dessus, Monsieur Desjardins?
Mais moi, je pense que les aînés, il y a 140 000 aînés qui ont fait le choix de vivre en résidence pour aînés. C'est un domicile, je le rappelle. C'est un choix d'habitation. Et récemment, on a fait faire un sondage par la firme Léger. Et le taux de satisfaction par rapport à la sécurité était d'au-delà de 90 %. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de choses à améliorer, mais globalement, partout... les résidences sont équipées de moyens mécaniques et également de moyens humains par de la surveillance. On a des obligations d'avoir de la surveillance. Et moi, je dis, les aînés sont en très grande sécurité. Et cela dit, après chaque événement, il faut se pencher, regarder ce qui est arrivé et apporter des correctifs s'il y a lieu.
Mais est-ce que c'est un faux débat pour vous que de poser la question comme ça, que de poser la question de la sécurité des aînés dans leur résidence, que ça soit privé, public ou de luxe?
Ben, je pense que la question est très large. C'est comme après l'écrasement d'un avion, si on posait la question, est-ce que c'est sécuritaire de prendre l'avion? Écoutez, moi, je pense que oui. Globalement, oui. Il y a des événements malheureux qui arrivent. J'en conviens. Celui d'hier, là, c'est vraiment triste. Mais on va voir les conclusions. On ne sait pas ce qui est arrivé complètement. On sait que c'est une très bonne résidence. C'est une résidence qui était certifiée par le gouvernement, qui rencontrait toutes les normes. Et même au-delà, il y avait plus de surveillants même que la loi l'exige.
Mais comment ça fait qu'ils n'ont pas vu que la je veux dire, ils ont des caméras de surveillance qui ont vu que la dame s'était évanouie après. Là, hier, on l'a vu apparemment qu'elle s'est évanouie à la porte dehors. Comment c'est pas qu'il y a personne qui a allumé pour dire voyons, elle vient de tomber dehors à quelqu'un, aller la chercher. On sait mais est-ce qu'on sait où?
On surveillait pas la caméra, c'est ça. Je pense, tout simplement. C'est que une caméra de surveillance est là pour le moment présent, pas pour voir ce qui a pu se passer il y a 4 heures. Alors, pour moi, il y a peut-être là, justement, il y a peut-être eu confusion à ce niveau-là.
Est-ce qu'on sait exactement à quel endroit? C'est un peu confus.
On le sait
pour
pas.
Moi, est-ce qu'on a clarifié ça? Est-ce que c'était devant? Moi, j'ai compris que c'était peut-être dans une cour intérieure. Qu'est-ce que vous en savez, vous?
Aucune idée.
Vous ne savez pas non plus.
Personne je suis désolé.
Ouais. Bon, on va s'arrêter ici. On va aller voir ce que les auditeurs en pensent. Je pense que ça touche beaucoup de monde parce que tout le monde a des gens âgés dans son entourage, des aînés dont beaucoup de Québécois ont à s'occuper. Et plus ça va, même si M. Desjardins du regroupement québécois des résidences pour aînés pense qu'il n'y a pas vraiment de problème, que c'est des cas isolés. Je pense qu'il y a de plus en plus d'inquiétudes chez vous qui nous écoutez en ce moment, surtout après la semaine dernière où on a beaucoup parlé de la résidence Léden. D'ailleurs, ceux qui m'écrivent pour me dire, est-ce que Jean Bottary est allé avec le fils de la dame qui a été ébouillantée. Ils y vont demain et donc jeudi matin, on pourra faire le suivi là-dessus. Vous avez peut-être vu dans l'actualité quand même le directeur de l'Éden qui disait à quel point ils n'étaient pas des monstres puis qu'ils faisaient leur gros possible. Tu sais, des fois, ton gros possible, c'est juste pas assez.
Mais il faut juste aller voir le rapport d'évaluation qui a été fait par le ministère. Il y a énormément de recommandations dans cette résidence.
On va revenir
donc... C'est un CHSLD.
On va revenir avec vos commentaires, 514-790-9850. Sans frais, vous pouvez nous joindre, hein, bien sûr, en faisant le 1-866-790-9850. Est-ce que vous pensez que nos aînés sont vraiment en sécurité dans les résidences privées, publiques, toutes confondues? À tout de suite. Est-ce que nos aînés sont véritablement en sécurité au Québec dans les résidences? Évidemment, on parle de cette histoire parce qu'il y a eu un décès extrêmement tragique. C'est Gilles Duceppe, l'ex-chef du Bloc québécois, qui a perdu sa mère, qui serait morte d'hypothermie dimanche matin. Le corps a été retrouvé à l'extérieur d'une résidence pour aînés plutôt chic là, qu'elle habitait. Une dame complètement autonome, d'après Gilles Duceppe, là, qui lisait même un livre par semaine. Et ça nous ramène à la tragédie dont on va commémorer, bien sûr, l'anniversaire, le 5e, demain. Le genre de choses qu'on veut commémorer pour s'en souvenir, même si ce sera sans doute la dernière commémoration, parce qu'au bout d'un moment, les gens disent qu'ils veulent aussi tourner la page. C'était à l'Île Verte, vous vous en souviendrez. 32 personnes âgées sont mortes dans l'incendie de la résidence du Havre. Avec nous, Alain Pelletier, qui m'a écrit hier. Il est le neveu d'une dame qui est justement morte dans cet incendie. Monsieur Pelletier, merci d'avoir pris la peine de me joindre pour raconter un peu votre histoire. Rappelez-nous un peu les faits là, et ce que votre tante a essayé de faire.
Oui, bonjour Isabelle. Alors, pour vous raconter un peu, c'est... En fait, je pourrais vous dire, la première des choses, c'est que l'incident qui est arrivé à l'île Verte, ça a été un fiasco total en termes de mesures d'urgence. Mm-hmm. Après, c'était la sœur de ma mère qui résidait à cet endroit-là. En fait, c'était une dame, elle avait 88 ans, mais elle était complètement autonome. Et écoutez, ça a été un incident très, très, très tragique. Et moi, ça me fait penser un peu à l'incident là, qui est survenu, malheureusement, pour la mère de M. Duceppe. Mm-hmm. C'est que moi, de ce que je pense, c'est qu'en termes de mesures d'urgence, lorsqu'il y a une alarme d'incendie, alors, en fait, on devrait faire une ronde pour s'assurer qu'à l'extérieur, il n'y a aucun résident qui est à l'extérieur. Alors, on comprend très bien qu'il y a beaucoup de résidents qui habitent à cet endroit-là, mais en termes de mesures d'urgence, je crois que ça aurait été simple, d'effectuer une ronde. Mm. Dans le cas de l'île Verte, au niveau de ma tante qui est décédée, ben ça a été l'effet inverse parce que eux autres, les résidents, ils ont été prisonniers à l'intérieur, puis ils n'ont pas pu sortir.
Voilà.
Et normalement, lorsque on a une alarme d'incendie qui part, ben normalement, les portes devraient se débarrer automatiquement, ce qui n'a pas été le cas.
Vous dites, c'est le manque de surveillance au départ suite à des alarmes d'incendie qui est problématique. Et vous dites, dans un cas, on ne peut pas sortir de la résidence à la suite d'un feu, puis dans l'autre cas, on ne peut pas y entrer à la suite d'une fausse alarme d'incendie. Évidemment, dans les deux cas, il y avait des conditions hivernales extrêmes à l'extérieur, c'était en janvier. Vous dites que c'est insensé, M. Pelletier. Il faut absolument remédier à ça. Est-ce que vous avez pu réfléchir, vous, à des solutions pour essayer de régler ce problème-là? On sait qu'après la tragédie de l'île verte, il y a eu évidemment cette obligation de doter les résidences de gicleurs. C'est ce qu'avait recommandé le coroner en 2015. Puis là, on sait qu'il y a 1800 résidences québécoises qui doivent se conformer d'ici 2020. Est-ce que c'est suffisant pour vous?
Moi, je dirais que non. En fait, c'est sûr, c'est une mesure de sécurité supplémentaire. Mais en ce qui me concerne, c'est que normalement, au niveau des sorties ou au niveau des entrées, on doit s'assurer à ce que tout le monde puisse être évacué et aussi s'assurer que s'il y a des gens à l'extérieur, puissent aussi entrer. Dans le cas d'une fausse alarme, là, telle qui s'est produite là, pour la mère de M. Doucet.
Puis dans le cas de votre tante, ce drame à l'île verte, là, c'est épouvantable. Avez-vous l'impression qu'on a appris quelque chose de ça?
Écoutez, je ne sais pas, mais il faut absolument qu'on apprenne quelque chose de ça. Ça a été, en fait, là, le cas de l'île verte, là, je crois que ça a été très dramatique, parce que définitivement, les gens ont pas pu sortir, OK? Et c'est un manque total, OK, au niveau de la surveillance, à mon avis, au niveau des entrées, des sorties, des établissements.
Aujourd'hui, je ne sais pas si les résidents sont plus à l'abri de ça. Hein? On peut se poser la question.
Oui, effectivement, on peut se poser la question, mais je crois que ben, c'est quelque chose qu'on devrait se conformer. Et écoutez, il faut comprendre dans ce contexte-ci que madame, en fait, la mère de M. Duceppe avait 93 ans. Et il faut s'attendre à ce qu'il arrive des situations comme ça, qu'une personne, malheureusement, elle a peut-être suivi la consigne qu'elle est sortie, mais il faut vraiment s'assurer aussi à ce que il n'y a personne qui reste à l'extérieur, comme c'est arrivé le cas présentement.
Oui, tout à fait. Je demande à M. Desjardins, qui est président du Regroupement québécois des résidences pour aînés, puis qui a travaillé, vous avez travaillé, Yves, pendant 30 ans dans le domaine d'incendie.
Oui.
Puis je pense que c'est même vous qui avez un peu poussé le gouvernement à ce qu'il y ait des gicleurs dans les résidences pour aînés au Québec, là.
Écoutez, même après l'incendie de Sainte-Geneviève, où cet aîné avait perdu la vie, à ce moment-là, j'étais directeur de l'école des pompiers à Laval. Et j'ai participé à des travaux où tout le domaine de l'incendie, en fait, avec l'association des chefs pompiers, on demandait au gouvernement d'exiger les gicleurs dans les résidences pour aînés. C'était également la recommandation de Cyril Delage en 96. Ça a été le cas également à l'incendie de Belle Génération en 2002 à Chicoutimi, où il y a eu 3 décès. Alors, les événements se sont répétés. Et
donc, on n'apprend pas, là, pour répondre à ma question, là, dans le fond, la réponse, c'est on n'apprend pas.
C'est très coûteux. Il y avait. Je ne peux pas expliquer. Ouais. Attendez, je ne peux pas expliquer pourquoi le gouvernement n'a pas pris les décisions à ce temps-là. Même en 69, quand il y a eu un décès dans le Témiscouata d'un grand nombre d'aînés, où on avait recommandé l'installation de gicleurs. Donc, c'est les événements qui nous apprennent à corriger le tir. L'année précédente.
Mais ça en prend combien?
Écoutez, l'année précédente de l'île verte, il y a eu un incendie à Laval, la villa Sainte-Rose. Heureusement, aucun décès. Et on avait, j'avais dit au gouvernement, attendez pas qu'il arrive une tragédie. On le voit, là. On était chanceux. C'est arrivé à l'heure du souper. Mais il faut faire quelque chose. C'était en février 2013. En janvier 2014, 32 morts. Mais vous savez, j'ai un article au bureau. Il y a eu un incendie à Sydney, en Australie. 11 aînés sont décédés. Et la question dans les journaux était, devrait-on exiger les gicleurs dans les résidences pour aînés? Alors, c'est pas qu'ici, mais c'est des moyens de protection qu'on ne peut pas se passer en 2019.
Puis moi, je retiens ce que vous venez de nous dire, M. Desjardins, c'est que ça fait 50 ans depuis l'incendie de 69 qu'on le sait, qu'on le dit, qu'on le répète, qu'on fait rien.
Vous avez raison.
Moi, quand j'entends ça, là, j'en reviens jamais. T'sais, qu'on connaisse des situations depuis des années, là, on parle de 50 ans. Là.
Moi, je trouve...
C'est comme...
Moi, je trouve la proposition de M. Pelletier extrêmement intéressante d'avoir justement dans le plan avoir par la suite des mesures de surveillance pour l'extérieur. Ça, pour moi, je pense qu'ils viennent de mettre le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. L'autre chose que je voudrais souligner, parce que malheureusement...
C'est pas la première fois qu'il le dit, là.
Pardon?
C'est pas la première fois que vous le dites, hein, M. Pelletier.
Non, non. Moi, je redoute. Même s'il paraît que je suis pas crédible. Mais enfin, peu importe. La différence aussi, je pense qu'il y a une distinction à faire entre les résidences qui sont petites et qui ont besoin de moyens financiers pour se doter de ce mécanisme-là, et d'autres résidences comme celle-là qui ont tout ça en place. Présentement, il y a une distinction à faire entre ces gens-là. C'est arrivé à ma tante qui avait à ce moment-là 98 ans au Saguenay, qui restait dans une résidence privée aussi, et le propriétaire a décidé de mettre la clé dans la porte parce que ça coûtait trop cher. Ben oui, mais on est une entreprise privée, on devrait prévoir les coûts à ce moment-là. Alors, si on a besoin de subventions, est-ce que le gouvernement doit subventionner pour l'entreprise privée? Ben, c'est toutes les questions qu'il faut qu'on se pose.
Monsieur Pelletier, avant de vous laisser aller, qu'est-ce que vous nous suggérez à la lumière là, évidemment de la commémoration des 5 ans de l'Île Verte? C'est vrai que ce sera la dernière, d'ailleurs. Je lisais ça. Est-ce que effectivement les gens dans votre coin, ils veulent tourner la page, puis ils veulent qu'on arrête de parler de ça, tout en se souvenant, mais passer à autre chose?
Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut vraiment tourner la page parce que ça a été tout un drame. Et définitivement, moi, ça m'a fait penser vraiment à cet incident-là lorsque j'ai su qu'est-ce qui est arrivé en fait à la mère de M. Duceppe. Alors, oui, effectivement, il faut apprendre. Puis j'en conviens toujours à ce que il faut vraiment implanter de la surveillance au niveau des entrées et des sorties, peu importe si c'est une alarme d'incendie qui est fausse ou réelle, mais il faut que les gens puissent être en mesure de pouvoir sortir, de quitter les lieux ou de pouvoir rentrer également dans l'établissement.
C'est la moindre des choses. Merci beaucoup, Alain Pelletier.
Merci
à vous. Alain Pelletier est le neveu d'une dame qui est décédée dans l'incendie de la résidence de l'Île Verte. Je vous rappelle, c'était dans le bas du fleuve, près de Trois-Pistoles. C'est un natif du Bas-Saint-Laurent. On en profite pour saluer tous les gens qui nous écoutent dans ce coin-là. Après la pause, je vous donne la parole. Est-ce que vous estimez que nos aînés sont assez en sécurité dans les résidences privées, publiques, à la grandeur du Québec? 514-790-9850 et sans frais partout. 1-866-790-9850. On vous parle tout de suite après. Est-ce que nos aînés sont vraiment en sécurité quand ils sont placés dans des résidences, que ce soit des résidences de luxe comme celle où habitait la mère de Gilles Duceppe, ex-chef du Bloc québécois, où ce sont des gens plutôt tout à fait en autonomie? Évidemment, c'est quand même des gens qui ont un certain âge. Donc, avec l'âge aussi vient certaines incapacités ou moins grandes capacités, comme celle d'ouvrir une porte, surtout si t'es barré à l'extérieur, tu peux pas rentrer, problème. En même temps, on vient d'entendre le témoignage d'Alain Pelletier. La tragédie de l'Île Verte, il y a 5 ans, ça fera 5 ans demain, les gens pouvaient pas sortir. Il y a visiblement un problème de porte au Québec. Il y en a qui se rouvrent, puis il y en a qui se ferment. Pas difficilement. On fait quoi avec ça? Dit de même, là, avouez que ça a l'air niaiseux.
Ben oui.
On se dit, ça se peut pas là, qu'on ait ce problème de porte-là. Là.
C'est ça.
C'est comme si on était barré.
C'est ça. On veut pas que les gens sortent dans les CHSLD, mais après ça, on n'est plus capable de rentrer.
Il y a comme quelque chose d'épouvantable là-dedans. On a Nicole au bout du fil. Bonjour, Nicole. Vous en pensez quoi?
Bonjour. Félicitations pour votre émission. Merci. J'apprécie. Et entre-temps, j'aimerais offrir mes sympathies à ma famille de M. Duceppe. Moi, je suis mandataire d'une personne âgée, c'est une de mes tantes, en étant en résidence du groupe Soleil, je vais la nommer.
Okay.
Et point de vue sécurité, entrer, sortir, moi-même, c'est contrôlé, je peux pas. Faut que quelqu'un m'ouvre la porte, et pour sortir, faut que quelqu'un m'ouvre la porte.
Okay.
Mais ce que je veux mentionner, c'est que les soins privés, il manque de personnel et... Deuxièmement, je trouve que les gens manquent de formation.
Ouais.
Moi, j'y vais constamment, je vais très souvent, soit à quelques instants, c'est à tous les jours ou 2 jours, maximum 3 jours, j'y vais. Mais je fais des recommandations, je veux dire, j'y vais parce que il faut un suivi, je m'en occupe, mais il manque certains. Pas tout le personnel, je ne veux pas accuser au complet, mais les personnes qu'ils engagent manquent de formation et de suivi.
Merci.
Malheureusement, c'est ça le gros problème des CHSLD.
Merci beaucoup, Nicole. Bonjour, Diane.
Bonjour.
On
merci.
Vous écoute.
Oui, ma mère a été dans le CHSLD pendant 4 ans. Je peux vous dire qu'on rentrait là comme dans un moulin. Dans une chambre, à n'importe quel étage. Moi, j'ai vu un monsieur qui a sorti, qui avait pas le droit, qui portait un bracelet. Et puis, ça a mobilisé tout le monde. Mais là, les gens ont arrêté de manger parce qu'il y avait plus personne pour les nourrir. Donc, il manque beaucoup de gens. Puis des fois, ça peut amener des choses cocasses. Moi, un monsieur, il est rentré dans la chambre à ma mère, il est embrassé ma mère. Là, ça, c'était drôle. Mais une autre fois, une dame, elle a voulu rentrer puis battre ma mère parce que ma mère criait dans ses derniers jours, là, dans sa maladie.
Mmh. Ça, il y a de plus en plus...
On avait une caméra de surveillance. Je vais vous dire, moi, ma mère est décédée, là, au mois d'octobre. Puis oui, on a de la peine, mais quelle délivrance! Quelle délivrance! Donc,
Pour elle, vraiment... vous voulez dire? Pour elle, Diane?
Pour elle, puis pour nous, pour les enfants aussi. Voyez-vous, moi, j'avais une caméra de surveillance. Je regardais les caméras. Après, je les amenais à la patronne de l'étage et on les regardait ensemble. Elle voulait bien, la dame, m'aider, là. Puis elle rencontrait les employés. Mais il manque de monde, Isabelle.
Mais votre mère était tabassée? Elle était quoi? Elle était brassée? Vous étiez obligée?
Ma mère, elle laissait dans son... pipi des heures. Elle a tombé de tout son long. Elle s'est cassée la hanche. Moi, j'ai vu un préposé sortir le dentier, pas rincé. Tu sais, c'est d'un pelule nettoyé. Parce qu'ils viennent comme sans connaissance, les employés. Donc, je sais pas. On s'en va là, en plus. Là. Moi et vous, on s'en va là.
Moi, je vois pas là certains, là, Diane. Là. Moi, je vois pas là certains. Là. Non.
Ben non.
Non.
Des fois, moi, je me dis, on est 4-5 amis célibataires, puis on se dit...
On va se faire une commune.
Ben oui. On va se payer des préposés, des infirmiers, tu sais, parce que c'est là qu'on s'en va. Ça n'a aucun sens. Moi, là, je vais vous dire, là, quand ma mère est décédée, j'étais 3 jours chez nous à pas sortir. À essayer de calmer toute la colère que j'avais accumulée à regarder ces caméras-là. Mmh. Imaginez, nous, on avait une caméra. Imaginez les familles qui sont toutes seules.
Ben, y a beaucoup de gens qui m'écrivent là-dessus. Merci, Diane, sur les caméras, entre autres. Y a une dame là, qui me dit que sa mère est dans un CHSLD. Elle dit que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Ils ont même mis sur pied une page Facebook, Réseau de soutien pour la dignité des aînés. Ils ont demandé à la ministre Blais une rencontre. Son cabinet aura décliné. Eux, ce qu'ils demandent, là, c'est des caméras dans toutes les chambres. Ils ont installé une caméra dans la chambre de la mère de cette dame qui m'écrit. 60 $, elle dit, ça évite beaucoup de maltraitance. Bon. On a demandé des inspecteurs anonymes, comme dans les restos, au lieu du commissaire aux plaintes internes, qu'on paye à rien faire. Ça, c'est pour moi qui dit ça, là, je la cite, là. Et elle rappelle que le commissaire de l'Éden, oui, je vous en ai parlé la semaine dernière, il a reçu seulement 8 plaintes. Pendant 1 an. Elle dit, foutez-moi ça dehors. Donc, c'est vrai qu'au niveau des plaintes, Pierre Blain, vous êtes bien au courant de ça.
Ben oui.
On a de la misère à savoir. Puis c'est vrai que le directeur général de l'Éden, la semaine dernière, disait, ben écoutez, moi, je suis pas au courant. Il y en a quasiment pas de plaintes. Tout va bien. Il y a même eu une visite. On l'a vu en fin de semaine. Marguerite Blais est allée. Puis ça a l'air que tout le monde était bien. Fait que, qu'est-ce que vous voulez? Si les gens s'y disent que ça va bien, ça va bien.
Ben moi, j'étais absolument scandalisé d'entendre le commissaire aux plaintes. Ça nous montre pratiquement qu'il n'était pas indépendant. Ce que je voudrais soulever comme
question... Ça, c'est gros ce que vous dites, là.
Ben, moi, je pense que les commissaires aux plaintes ne le sont pas vraiment. Il y a une disparité incroyable. J'ai fait une étude, justement, sur les différents rapports aux plaintes. Il y a des commissaires aux plaintes là, qui font 180 pages, puis il y en a d'autres qui font 28 pages. Pourtant, dans celui où il fait 28 pages présentement, il y a eu 5 917 cas de chute dans son territoire, dans les CHSLD.
Puis comment ça marche, les commissaires aux plaintes? C'est par région?
C'est par établissement? C'est par établissement, effectivement.
Puis un commissaire peut avoir plusieurs établissements?
Un commissaire peut avoir plusieurs établissements, effectivement. Il peut... institution, pas établissement, institution. Ouais. Parce qu'une institution, c'est un lieu physique.
Mais là, vous dites, celui-là qui en avait quasiment 6 000 sur son territoire...
Ben, de chutes, qu'il y a eu seulement de chutes.
6 000 chutes?
Sur le territoire.
En combien de temps?
En 1 an. Présentement, au Québec, là...
Aïe, ça en fait du monde qui tombe.
Il y a 5...
J'espère qu'il y en a qui ramassent, quand même.
Il y a 513 000, on parle des CHSLD toujours, il y a 513 000 accidents. Dans les accidents dans le réseau de la santé, il y a 421 décès. C'est plus que sur les routes du Québec.
Ça, c'est dans tout le réseau. Hein?
C'est dans tout le réseau.
Mais décès troubles ou décès?
Décès suite à un accident. Une chute ou autre chose. Ça peut être d'autres... Et 62 % des décès qui sont attribués à des des chutes. Ça, là, vous trouvez ça dans le rapport incident-accident. Donc, bien sûr, c'est différent. Est-ce que dans le réseau public, dans le réseau privé, est-ce qu'on a les mêmes exigences? Je pense pas. Peut-être que la situation n'est pas la même, mais je pense que peut-être qu'il y aurait des choses à voir là, de ce côté-là aussi.
On a Joe qui est avec nous. Bonjour, Joe. Est-ce que sur la question de la sécurité, auriez-vous des suggestions, vous, pour essayer d'éviter que nos personnes âgées, comme ça, fassent les frais d'un manque de surveillance ou de porte barrée?
Ben, écoutez, moi, Mme Maréchal, je vais vous dire franchement, je veux vous lever un point parce que vous avez parlé des chicleurs tout à l'heure. Moi, je suis dans le monde de la construction. Mm-hmm. Ce qui tue les gens, c'est la boucane. C'est que les gens n'ont pas le temps de sortir quand il y a un feu. Et c'est la boucane, ils meurent étouffés bien souvent. Ouais. Le chicleur, lui, ce qu'il fait, tu ne peux pas dire que c'est pas utile, mais le chicleur, il va faire encore plus de boucane parce qu'il combat le feu. Alors, le problème qu'on a au Québec, je regarde des nouvelles constructions d'hôpitaux, de CHSLD, des belles tours à condos à l'île des Sœurs et partout au centre-ville de Montréal, là, ça coûte 500-600 000 le condo. Le système coupe-feu n'est même pas adéquat. Les scellants qu'ils mettent n'ont fait aucune inspection avant. En Ontario, aux États-Unis, ils font des inspections. Ils vont vérifier si ça a été bien installé, si ça a été bien mis. Ici, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de formation qui est donnée. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait une tour ou un hôpital qui brûle demain matin parce que ça ferait des dommages épouvantables.
Mais c'est drôle que vous disiez ça, Joe, parce que dernièrement, j'avais une discussion avec quelqu'un dans le domaine de la copropriété, puis on parlait d'une couple d'édifices du centre-ville, Jean-Guy et René Lévesque, où, après vérification, après inspection, ils se sont rendus compte que s'il y avait un incendie dans ce place-là, ça serait un gros problème.
Je travaille là en ce moment. Je suis sur ces chantiers-là. C'est épouvantable. Il n'y a pas de suivi qui est fait.
Mais vous n'avez pas d'inspecteurs qui viennent vous voir et qui disent ça, c'est pas conforme,
non,
ça, faut...
Non. En Ontario, c'est le système d'incendie de la ville qui viennent vérifier si c'est bien installé. Ils font affaire avec des spécialistes qui vendent des produits coupe-feu, qui exigent que les spécialistes qui ont vendu les produits coupe-feu regardent et disent si ça a été bien installé. Les architectes essayent de le pousser, mais c'est les promoteurs qui ne veulent pas payer pour ces choses-là. Et vous savez, Mme Maréchal, ce qui est le plus drôle, sur une tour à condo qui vaut 100 millions, juste le système coupe-feu, ça représente 0,02 du premier pourcentage de la construction. Mm-hmm. C'est rien. Mais ça a des dommages épouvantables. Puis ça va être pire que ça avec la nouvelle loi sur le POT. Si c'est pas bien fait, le coupe-feu, vous allez avoir les odeurs également. Ça va venir un problème. Mais si c'est bien fait, ça fait pas juste bloquer la boucane, ça bloque les odeurs également. Alors, des fois, je regarde ça, je me dis, le pauvre gars qui paye 600, 700 000, 800 000 le condo, s'il savait comment c'est broche à point quand ça a été construit, c'en est dommage.
Oui, c'est grave ce que vous dites.
Vies, si on veut sauver des vies, Mme Maréchal, il faut qu'on fasse des inspections sur les scellants coupe-feu. On va empêcher la boucane, c'est comme ça qu'on va sauver des vies. Et l'île verte, oui, les portes barrées puis tout ça, mais en plus, il n'y avait même pas de système coupe-feu. Il y a bien des vieilles... À l'île des Sœurs, là, il y a des condos qui ont été faits dans les années 80. Ça n'existe même pas du scellant coupe-feu. Là. Fait que la boucane va se propager partout autour. C'est vraiment dommage.
Wow! C'est inquiétant ce que vous nous dites. Oui, on a beaucoup à apprendre, visiblement. Hey, merci beaucoup, Joe. On va à la pause. On revient tout de suite après avec vos commentaires. Bonjour, Lise. Fait que là, expliquez-moi un peu votre affaire. Vous travaillez dans une résidence pour personnes âgées, puis vous habitez là en même temps, puis vous faites de la surveillance la nuit, c'est ça?
C'est ça. Moi, je suis dans une résidence personne autonome.
Oui.
OK, c'est... Le seul critère pour y habiter, c'est d'avoir une pension. Mm-hmm. Alors, on peut avoir 55 ans et y habiter. Et puis, dans le jour, il y a un bureau avec une administration, tout ça. Mais le soir et les week-ends, c'est fait par des résidents. On a un cellulaire et s'il y a une urgence, on nous appelle là-dessus. Ça peut être un lavabo qui déborde, l'alarme incendie qui sonne. Ça peut être toute urgence.
OK, mais mettons que je vous mets dans le cas là, de la mère de Gilles Duceppe, là. Si ça avait été chez vous, là, vous auriez vu une dame, 93 ans, qui est dehors, elle n'est pas capable de rentrer, l'auriez-vous su? Le sauriez-vous, vous?
Ben non, pas plus, parce que la résidence, elle offre pas de service en tant que telle. En tout cas, je parle pour chez moi, là.
Ouais.
Elle offre pas en tant que telle de service parce qu'on est censé tous être autonomes. Mais il y a des gens qui habitent là, ça fait 25 ans. Il y avait 60 quand ils sont rentrés, ils ont 85. Ils ne sont plus autonomes.
Ouais, c'est ça.
Puis là, le gouvernement qui offre les services du CLSC à domicile des 3-4 heures par jour. Ils viennent les lever. Moi, j'ai vu qu'ils venaient lever la personne parce qu'elle n'est pas en mesure de se lever seule. Ils les lavent, ils viennent la faire manger, tout ça. Mais s'il y a une urgence, ils sont pas là, eux. Alors, le fait de vouloir absolument faire un maintien à domicile dans un endroit comme ça, quand tu es 200 quelques locataires, ben tu en as peut-être 20, 30, 40 qui ne sont plus autonomes à un moment donné.
Donc, il aurait fallu faire quoi, d'après vous? Comment
moi, je trouve que le gouvernement, avec son maintien à domicile, si vous habitez un duplex, un triplex, et puis que vous avez un locataire qui est en perte d'autonomie, le CLSC vient s'en occuper. C'est pas si mal. Vous êtes 3-4. Là.
Mais dans une tour, ça devient plus difficile.
Mais quand vous êtes dans une tour à 210 personnes, et votre vocation à vous, comme moi, la vocation de la résidence, c'est à but non lucratif, première des choses, et c'est pour personnes autonomes.
Ouais.
Mais au fil des années, le maintien à domicile du gouvernement, mm-hmm. Ben c'est ça que ça produit. C'est qu'à un moment donné, quand t'es d'un endroit comme ça, il y en a 40 qui sont plus autonomes. Là.
Merci.
On a du Alzheimer. On a déjà, dernièrement, une dame qui s'est ramassée nu-pied dehors. Mm. Mais c'est un autre locataire qui l'a vu. Ils sont allés la chercher. On peut amener l'ambulance, on peut amener les policiers. Mais c'est... Puis elle...
Mais ça prend des humains. On comprend bien ce que vous dites, Lise. Ça prend des humains aussi. C'est ça que vous dites. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne... Dans le cas de la mère de Gilles Duceppe, on avait des caméras qui l'ont vu. On a des preuves vidéo. Le coroner va se baser là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on le voit. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde la TV pendant ce temps-là, qui regarde puis qui puisse dire « Oh, il y a une dame dehors coincée à 4 heures du matin. »
C'est ça.
J'ai même à quel est son manteau d'hiver ou pas. C'est anecdotique. Elle était dehors. Il faisait moins 20. Voyons donc, en plein milieu de la nuit. Comment ça fait qu'il y avait personne qui l'a vu?
Ce que madame décrit est absolument parfait. Essentiel, effectivement. Et ça se passe beaucoup aussi dans les HLM. Où les HLM, les gens doivent être autonomes, mais de plus en plus, ils ne le sont pas. Il y a eu le cas d'une personne qui est décédée, d'ailleurs, dans le nord de l'île.
On a Hélène avec nous. Vous êtes une ancienne infirmière, Hélène?
Oui, bonjour Isabelle.
Bonjour.
Tu devrais être considérée comme un service essentiel à notre société.
Oh, vous êtes bien fine.
moi, j'ai une idée qui me trotte en tête depuis cet événement-là. Mm. Quel que soit le prix que les gens paient, quand c'est rendu dans les 3 000-4 000 $, je pense qu'un bracelet ou un collier sécuritaire pour toutes les personnes qui habitent ces résidences-là, en cas de besoin. Est-ce que ce ne serait pas une solution?
Mais Hélène, voyez-vous, j'en parlais pendant la pause avec mes invités, puis Yves Desjardins, M. Desjardins, on peut raconter l'histoire de votre mère. Vous avez essayé, vous, votre maman est décédée aujourd'hui, mais vous avez essayé de lui faire mettre un bracelet.
En fait, on voulait mieux la protéger, on essayait de toutes sortes de façons. Elle ne voulait pas, elle me raccrochait même la ligne au nez quand je lui disais « Il y a quelqu'un de la résidence qui va aller cogner à ta porte le matin pour voir si tout est correct. » Elle dit, j'ai pas besoin que quelqu'un vienne voir si je suis morte. Et
oui, mais
ça la fâchait. On peut pas vraiment obliger les gens. Pensez à la liberté de ces aînés-là. Moi, c'est offert, les bracelets. Il y a même des pendentifs. Il y a toutes sortes de moyens sécuritaires qui sont offerts. Mais de là à l'obliger, moi, je pense qu'on entrave un peu la liberté des aînés.
Hélène?
D'accord. Oui, à ce point de vue-là, je suis d'accord. Mais moi, je pensais qu'en leur expliquant, là, surtout avec les événements qui se reproduisent,
Ben, peut-être qu'aujourd'hui, Hélène, ça va. C'est le cas de le dire. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va peut-être un peu brasser les consciences, puis qu'il y a des enfants qui vont être peut-être plus convaincants envers leurs vieux parents, puis que les personnes âgées vont peut-être se dire aussi, c'est peut-être pour ma sécurité, parce que là, sinon, je veux dire, on a fait un peu le tour là. Les caméras, la surveillance des entrées, des sorties. Comment on gère ça? Sinon, là.
Parce que j'ai gardé mon père chez moi pendant plus de 6 ans.
Ouais.
Et quand il était, quand sa santé défaillait, je l'amenais à l'hôpital. Mais je l'avertissais, papa, ce soir-là, j'ai demandé qu'on te mette une ceinture pour t'attacher dans ton lit. Parce que je veux pas que tu essaies de te lever. Ton lit est plus haut qu'à la maison. Je lui expliquais, puis il coopérait très bien.
Ouais.
Alors, en tout cas, c'est une idée que j'ai eue d'une approche comme celle-là.
Mais je pense qu'il faut l'essayer. Puis si ça marche avec dans votre famille, bien, tant mieux que votre proche. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être réfractaires pour toutes sortes de raisons. Je m'imagine, moi, 90 ans. Merci beaucoup, Hélène. M'imagine à 93 ans, puis tu te dis, là, garde, Isabelle, on va te forcer, on va te mettre un bracelet parce qu'on veut pas.
Non, c'est
pas sûr que je sois bien ouverte à ça. Je sais pas,
c'est
là,
pas
mais bon, ça se peut que ça me plaise pas. Mais
c'est pas la solution. La différence.
Mais c'est quoi la solution, Pierre?
Ben, la solution est effectivement de s'assurer qu'on met des mesures de contrôle quand arrivent des événements indésirables.
Dans ce cas-ci, il y a eu une alarme. Une fausse alarme.
Voilà.
Il aurait fallu faire une tournée.
Exactement. Donc, c'est pas bien difficile. La différence...
Monsieur Desjardins, 30 secondes.
Ben, on va attendre les conclusions de l'enquête.
Voilà.
Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on mélange encore une fois les blocs appartements avec les résidences pour aînés, CHSLD.
Mais c'est un tout, ça. C'est une question d'attitude par rapport à la vieillesse. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. On parle de monoxyde de carbone après les nouvelles. Restez là, tout le monde.